Je vous invite à prendre vos Bibles pour les ouvrir dans le psaume 128. Cantique des montées. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu contempleras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Voici le texte de l'objet de la prédication, et nous lirons deux autres textes qui nous aideront à éclairer quelques passages de ce psaume. C'est le premier dans Luc 12. Luc 12, et nous le lirons à partir du verset 13. Nous voyons ici quelqu'un qui s'adresse à Jésus. Verset 13. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » Il répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup apporté. Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Et Matthieu 6, que nous allons lire maintenant, les versets 19 à 20, nous parle justement des richesses que l'Éternel nous invite à amasser. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Vous vous souvenez du début du psaume 128, où il est parlé de « Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies ». Eh bien, craindre l'Éternel et marcher dans ses voies, c'est l'attitude dans laquelle le Saint-Esprit parle à notre cœur docile et attentif, en fait. Nous désirons la bénédiction de l'Éternel sur notre vie, eh bien que cette prédication, par sa grâce, soit utile dans sa main pour la saisir grâce à l'œuvre de son Esprit. Le psaume 128 qui va nourrir la prédication de ce jour est très riche. Il pourrait très bien convenir à un mariage ou à une naissance ou simplement à célébrer la famille comme le psaume 127 que nous avons vu dimanche passé. Ces deux psaumes en fait devraient être le fondement de tout foyer qui veut vivre selon l'Éternel. Psaume 127, c'est psaume 128. Vous pouvez les relire régulièrement en famille. Et nous avons aussi des contrastes dans ces deux cantiques. J'aimerais les souligner quelques contrastes. Le psaume 127 soulignait la vanité de la vie sans Dieu. Ainsi l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui travaille œuvre en vain. Et le psaume 128, par contre, souligne la bénédiction de la vie avec Dieu. Si le psaume 127 soulignait que tout vient de Dieu, le psaume 128 indique que l'obéissance respectueuse n'est pas étrangère à la bénédiction. En fait, le psaume 127 corrige ceux qui disent que la bénédiction est le résultat mathématique de la piété et du travail et de l'obéissance. Non, la bénédiction est un don gratuit de Dieu qui n'est ni tenu ni retenu par nos œuvres. Et le psaume 128 corrige ceux qui disent que la bénédiction n'a pas de lien avec notre manière de vivre. Hein, le psaume 128, il corrige ceux qui disent que la bénédiction n'a pas de lien avec notre manière de vivre. C'est celui qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies qui est heureux. C'est celui qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui est heureux. Ces deux psaumes qui sont en fait au centre de ces cantiques des montées s'équilibrent l'un l'autre. Et le psaume 28 nous donne une clé du bonheur, pourrait-on dire. C'est en fait tout le psaume 128, c'est la réponse à la première question du petit catéchisme, enfin du catéchisme de Westminster. La première question du catéchisme de Westminster, c'est: quel est le but de l'homme? Eh bien, on pourrait dire: heureux quiconque craint l'Éternel. La réponse dans le petit catéchisme, c'est: glorifier Dieu et trouver son bonheur en lui. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, nous allons ce matin d'abord réfléchir à cette question du bonheur, d'être heureux. Deuxièmement, nous parlerons de la source de ce bonheur, qui est la crainte de l'Éternel, ou plutôt le déclencheur du bonheur, comme nous le verrons. Et en troisième partie, nous parlerons de la conséquence, du résultat, de ce qui accompagne ce bonheur, la bénédiction de l'Éternel. Voici donc les trois points. Hein. Le bonheur, être heureux. Deuxième point, un déclencheur du bonheur, la crainte de Dieu. Et troisième point, ce qui accompagne le bonheur, la bénédiction de l'Éternel. Commençons par ce premier point, le bonheur, être heureux, être heureux. Le bonheur, la joie, qui n'aimerait pas vivre cela? Tout le monde cherche le bonheur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait partie de notre ADN. Dieu nous a créés ainsi. Pour être heureux, l'être humain est capable de toutes sortes de choses, hein. Comme travailler beaucoup pour obtenir tout ce qu'il désire, ou faire beaucoup de compromis pour être accepté par tout le monde, ou écraser les autres afin d'être au-dessus du plus grand nombre, ou encore s'engager très peu pour avoir le moins d'obligations possible, ou encore même se faire du mal en espérant ainsi atteindre ou recevoir quelque chose. Allonger la liste. Il y a tellement de moyens qui sont recherchés pour arriver à recevoir quelque chose de meilleur, à trouver le bonheur. Tous ces efforts n'ont qu'un but, atteindre par tous les moyens le bonheur espéré. Mais c'est quoi le bonheur en fait? On me suis dit, je vais voir dans le dictionnaire. J'aime bien parfois trouver les significations des mots. Et là, je trouve intéressant ce que le dictionnaire nous dit. Il dit que le bonheur, c'est un état de conscience pleinement satisfaite. Un état de conscience pleinement satisfaite. Et il va plus loin en disant, par extension, ce qui rend heureux. C'est le bonheur, selon le dictionnaire. Et la Bible n'est pas contre le bonheur. C'est même recommandé par la parole de Dieu d'être heureux. C'est recommandé, heureux. Le psaume commence ainsi d'ailleurs, hein. Heureux. C'est ce qu'on appelle une béatitude, quand on commence par « heureux » dans la Bible. Vous savez, Satan, le menteur, fait croire au monde que Dieu ne veut pas le bonheur des hommes. Il fait croire, en fait, Satan fait croire que Dieu veut avilir les hommes, les rendre esclaves, les limiter, les déprécier, les rendre misérables. C'est ce qu'il fait croire au monde. Pas déjà entendu ce genre de choses. Mais c'est exactement ce que Satan fait, lui, l'ennemi de nos âmes. Alors que le Créateur, le Rédempteur, veut le bonheur des hommes, et pas un bonheur éphémère, passager, futile, parce que ça c'est l'hameçon que Satan utilise pour jouer son jeu. Non, nous avons un Dieu du bonheur durable. C'est bon ça? Dans cette période d'élection, hein, avec des bons slogans. Eh bien, nous avons un Dieu de bonheur durable. Il est tellement durable que c'est éternel. Quelqu'un qui est heureux est content, les amis. Quelqu'un qui est heureux est content. Et le contentement est source de grande bénédiction. Le contentement est source de grande bénédiction. Il fait partie de ce bonheur. Et lorsque vous êtes content, vous voyez votre travail comme un don de Dieu. Vous êtes heureux. Vous voyez votre conjoint comme une faveur. Le proverbe 18-22 est quelque chose que vous chantez tous les jours. Et vos enfants, vous les voyez comme des grâces enrichissantes. C'est ainsi que nous voyons lorsque nous sommes contents, lorsque nous sommes heureux, lorsque nous vivons ce bonheur. Guillaume, un grand chevalier de l'époque, était tellement heureux qu'il voyait chaque personne qu'il rencontrait comme des joyaux précieux. Et s'ils étaient tristes, mélancoliques, voire même hostiles ou méchants, le chevalier Guillaume sortait son épée du contentement et coupait les liens, cassait les chaînes et libérait ses joyaux de leur horrible prison pour les faire briller au soleil. C'est beau, non? Eh bien, que notre contentement puisse être un puissant outil aussi dans la main de Dieu. Celui qui est heureux donne du bonheur et s'enrichit. Ça, c'est la logique divine. Il donne et il s'enrichit. Donner pour s'enrichir, hein, alors que garder et thésauriser, c'est s'appauvrir dans la logique divine. Ce n'est pas tout à fait dans la logique économique actuelle, mais dans la logique divine, c'est ainsi. Donner, c'est s'enrichir, et garder ou thésauriser, c'est s'appauvrir. Donc thésauriser, amasser, hein, les trésors. Le bonheur, c'est-à-dire être dans un état conscient et pleinement satisfait, n'est jamais mauvais. C'est jamais mauvais d'être dans le bonheur. Il ne peut jamais y en avoir trop. Et le partager nous en donne encore plus. Comprenons donc que le bonheur est une excellente chose et que Dieu non seulement le recommande, mais nous y invite à y entrer. Parce que c'est lui la source de notre bonheur. C'est lui qui peut nous le donner. Et pour entrer dans ce bonheur, il existe des clés. Et pour ouvrir les portes qui nous séparent de ce bonheur, eh bien l'une de ces clés, si ce n'est la clé, est donnée dans ce texte, dans ce psaume. Et c'est notre deuxième point, que j'ai intitulé « Un déclencheur du bonheur, la crainte de l'Éternel ». Si je vous dis comme ça, il faut craindre l'Éternel, à quoi pensez-vous? Vous avez déjà souvent entendu cette expression d'ailleurs. Il faut craindre l'Éternel. Qu'est-ce que cela amène dans nos pensées? Si je vous dis qu'un chien obéissant et fidèle est un chien qui craint son maître, pensez-vous qu'il en a peur, qu'il est terrorisé par son maître qu'il aime? En fait, sa peur, c'est de décevoir son maître. Il est terrorisé à l'idée de ne pas répondre aux attentes de son maître. Mais il sait que son maître l'aime. Et il voit qu'il prend soin de lui chaque jour en lui donnant à manger, en le cajolant et en allant se promener avec lui. Le seul désir du chien est d'aimer son maître. Et son obéissance qu'il a appris le rend fier et heureux chaque fois que le maître lui demande quelque chose et lui donne parfois une petite tape en lui disant « C'est un bon chien. » C'est une illustration qui a ses limites, évidemment. Mais craindre l'Éternel, c'est un peu pareil. Il est le souverain maître. Il n'est pas de la même nature que nous. Nous n'avons aucun droit sur lui. Et nous avons un grand respect pour lui. Nous ne le traitons pas comme un semblable, comme un copain, même si dans son amour, il nous appelle ses amis. Cette marque d'affection, en fait, fait grandir en nous un amour encore plus grand pour ce Seigneur qui veut notre bien à long terme. Notre plus grande crainte, alors, c'est de le décevoir et de perdre sa présence à nos côtés. Ça, c'est notre plus grande crainte, en fait. C'est de décevoir ce souverain maître qui est bon et parfait et de perdre sa présence à nos côtés. Parce que le bonheur, c'est d'avoir Dieu à ses côtés, et de vivre comme il l'a prévu. Puisque c'est notre concepteur qui connaît mieux que personne qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Même si nous ne le comprenons pas toujours tout de suite. Mais lui, il le sait. Il sait que c'est le meilleur. Le verset 1 du psaume 128 complète très bien la signification de la crainte de l'Éternel. Vous vous souvenez, dans Hébreu, il y a des fois des répétitions. Hein, c'est ainsi qu'on fait de la poésie en Hébreu. Eh bien, vous avez « Heureux quiconque craint l'Éternel ». Ils avaient un écho à « Craint l'Éternel » et « Marche dans ses voies ». Marcher dans les voies de l'Éternel, c'est le craindre. Obéir à l'Éternel, c'est le craindre. Vous avez un peu d'imagination ? Alors on va l'utiliser. Dans ce petit pays imaginaire du Happiness, tout le monde rêvait d'être au service du roi. Parce que celui-ci était très riche, généreux et rempli de bonté avec tous ses employés. Alors ce roi fait publier un avis. Le roi cherche un homme pour travailler un jour pour lui. Alors tout le monde voit cette affiche, mais c'est vrai, comme il désire être plus qu'un jour au service du roi, il n'y a que deux personnes qui se présentent. Le roi les engage pour une certaine somme d'argent et leur donne un joli panier d'osier dans lequel vous pourriez mettre, bon, je sais pas, 10 kilos de pommes. Il les amène vers un puits et il leur demande de puiser l'eau dans ce puits et de le vider dans le panier pendant toute la journée. Et le roi viendra le soir pour rendre compte de leur travail accompli. Alors le roi partit, les hommes se mettent au travail. Et après avoir versé quelques seaux dans le panier, l'un d'eux dit, mais est-ce qu'on va continuer ce manège jusqu'à ce soir ? Pourquoi remplir ces paniers qui ne retiennent pas l'eau ? Est-ce qu'on ne va pas nous prendre pour des fous, en fait ? Puiser dans ce puits, verser dans ce panier qui ne retient pas l'eau. L'autre ouvrier lui répond, mais c'est la voie que le roi nous a tracée. Ce que les autres pensent, en fait, m'est égal, pourvu que je fasse ce que mon roi bien-aimé m'a demandé de faire. Même si je ne comprends pas pourquoi, il me demande de faire ce travail. Et ce que je crains le plus, ce n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais c'est ce que le roi pense de moi. Mais le premier ouvrier n'est pas convaincu. Il ne veut pas passer sa journée à faire quelque chose d'aussi ridicule. Il est même sûr que le roi s'est moqué d'eux, en fait. Vous imaginez, si les autres nous voient faire ça, ils vont se moquer de nous jusqu'à la fin de notre vie. Alors il laisse son seau et il s'en va. L'autre ouvrier reste fidèle et continue toute la journée à remplir son panier qui reste vide. Jusqu'à ce qu'il arrive au fond du puits. Et lorsqu'il vide son dernier seau, en partie rempli de sable du fond du puits, l'eau et le sable s'échappent par les trous du panier d'osier. Et, ô surprise, un fabuleux joyau d'un grand prix reste dans le panier. Et c'est là qu'il comprend qu'il avait besoin de ce panier pour garder ce joyau qui autrement aurait pu disparaître dans la boue. Après une journée de travail avec de l'eau, hein, c'est dans la boue. Et peu de temps après, c'est la fin de la journée, le roi arrive. Il lui dit, « Je te félicite, lui dit-il, de ton obéissance parfaite. Je te félicite de ton obéissance parfaite. Tu as été fidèle dans l'œuvre étrange que je t'avais donnée à faire. Même si tu ne comprenais pas pourquoi, tu as fait la volonté de ton roi. Tu as été fidèle dans l'œuvre étrange que je t'avais donnée à faire. Même si tu ne comprenais pas pourquoi, tu as fait la volonté de ton roi. » Dès aujourd'hui, tu as ma confiance et tu te tiendras toujours à mes côtés, couvert de ma générosité. Car c'est là la place de celui qui me craint et qui marche dans mes voies. Le joyau, d'ailleurs, est pour toi. C'est beau, non ? Ça nous encourage à vivre pour notre Seigneur. Les voies de Dieu, est-ce que vous connaissez les voies de Dieu ? Mais c'est ses commandements. Il n'y a pas besoin de chercher. Seigneur, montre-moi ta volonté quand que je dois vivre. C'est ses commandements, les amis. Est-ce que vous les connaissez? Vivons-nous en accord avec ces commandements? Versons-nous ce seau d'eau dans ce panier? Avons-nous plus peur du regard des autres ou de celui de Dieu? Lequel compte le plus pour nous? Craindre l'Éternel et marcher dans ses voies, c'est chercher à suivre ses commandements. Et lorsque nous constatons que nous n'y arrivons pas, c'est lui demander pardon, aller à la croix vers celui qui a tout accompli parfaitement et revenir à notre tâche de remplir notre panier et croire que l'œuvre de Jésus à la croix nous pardonne nos arrêts de travail, nous pardonne nos péchés et nous purifie de toute iniquité. Et lorsque notre conscience est lavée de toute faute, elle est satisfaite, paisible, nous sommes heureux. C'est le bonheur promis par Dieu. Et j'espère que vous l'avez déjà vécu et que vous le vivez au quotidien. En vivant cette repentance et cette foi en Christ, nous avons une conscience purifiée. Je vous assure qu'il y a des personnes dans ce monde qui donneraient des millions pour avoir leur conscience purifiée. Nous pouvons venir à la croix et il nous purifie de tout péché. Et Dieu est tellement généreux qu'il accompagne ce bonheur de bénédiction. C'est notre troisième point. Ce qui accompagne le bonheur, la bénédiction de l'Éternel. Le bonheur est accompagné de la bénédiction. Comprenez bien que la bénédiction n'est pas la source du bonheur. Comme malheureusement parfois on le croit. Mais ces bénédictions participent à ce bonheur. La source, c'est Dieu qui nous l'envoie depuis sa résidence. Un déclencheur à cette bénédiction indispensable, c'est la crainte de Dieu. Et les bénédictions peuvent être présentes ou non, cela n'enlève pas le bonheur. Parce que ce n'est pas la source du bonheur. Mais c'est vrai que dans notre situation de pèlerinage, les bénédictions qui accompagnent le bonheur sont un grand encouragement. C'est vrai. Il ne faut pas dire autrement, c'est juste. Hein? Bien entendu. Mais si ces bénédictions deviennent notre but, notre raison de vivre, nous allons nous égarer. Notre but et notre raison de vivre, ce ne sont pas les bénédictions. C'est de craindre l'Éternel et de marcher dans ses voies. J'aimerais faire une parenthèse ici concernant ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cela. Cette théologie déviante prend les bénédictions pour des buts, en fait. Et dit en bref, je vais essayer en une phrase vous donner la théologie de la prospérité, qui dit ceci: tout chrétien possède la prospérité physique et financière au même titre que le salut. En fait, il part d'une corde à trois brins: le pardon des péchés, la santé et la richesse. Et si ces promesses ne se réalisent pas, c'est que la foi était insuffisante ou qu'elle doit encore persévérer. Donc, impossible de remettre en question ces promesses. Puisque le problème, si ça ne marche pas, ce n'est pas les promesses qui seraient fausses. C'est la foi que vous n'avez pas. D'ailleurs, l'un de ces théologiens dit ceci: le succès est disponible ici, maintenant. Il dépend de vous de venir et de le recevoir. Si vous n'avez pas de succès, c'est de votre faute et non celle de Dieu. Vous déterminez votre niveau de succès. Vous faites les choix. Dieu a placé la balle dans votre camp. C'est vous qui donnez le mouvement. Ça, c'est typique, hein, de ce genre de théologie déviante, malheureusement. Et en lisant le psaume 128, voici ce qu'il pourrait dire d'ailleurs. Il dirait: mais craignez l'Éternel, marchez dans ses voies et vous aurez du succès. Et si vous n'en avez pas, ce n'est pas de la faute de Dieu qui a promis la prospérité selon ce texte. C'est dû à votre manque de foi. Mais il y a des problèmes à cette façon de voir. J'aimerais simplement soulever deux pour nous aider à comprendre les problèmes et les erreurs qu'il y a ici. Premièrement, la bénédiction n'est pas liée au mérite. La bénédiction n'est pas liée au mérite. Parce que si c'était le cas, réfléchissons juste un petit instant avec ce psaume 128. Si c'était le cas, à quel moment aurions-nous assez craint l'Éternel et assez marché dans ses voies pour recevoir ses bénédictions? À quel moment? La bénédiction n'est pas un dû. Ce n'est pas un salaire. Je veux cette bénédiction, donc je fais ce qui est dit et je dois la recevoir. Comme lorsqu'on met de l'argent dans un automate et il me donne le produit que je désire. Satan, d'ailleurs, a même voulu faire croire à Dieu, c'est écrit dans la Bible, hein, il a voulu faire croire à Dieu que c'était la bénédiction qui était le moteur de l'adoration des hommes. Malheureusement, c'est vrai parfois, mais il a dit, Job, il t'aime seulement parce qu'il est béni. Il voulait dire, ben, sa source à lui de te craindre, c'est les bénédictions. Donc il marche à la bénédiction. Alors que Job, vous connaissez l'histoire, craignait Dieu simplement parce qu'il était Dieu. Et alors qu'il avait tout perdu, il a continué à craindre Dieu. La bénédiction, mes chers frères et sœurs, c'est une grâce que Dieu le souverain accorde comme il le veut et quand il le veut. Et c'est vrai, et c'est aussi important de le souligner, qu'il prend plaisir à bénir ses enfants qui suivent sa parole, mais l'autorité et le pouvoir de bénir restent de son côté. Si un enfant obéit à ses parents, s'il est poli et qu'il se montre reconnaissant, est-ce qu'il peut à ses 18 ans dire à ses parents « Vous devez me payer une voiture ?» Ben non, bien entendu, son obéissance, sa politesse, sa gratitude font partie de ce qu'il doit vivre et il ne mérite pas de recevoir quelque chose pour cela en fait. Il n'y a aucun mérite, ça fait partie de ce qu'on est appelé à vivre de toute façon. Il sera, c'est vrai, considéré, la confiance lui sera accordée, et dans leur bienveillance, ben, ses parents lui auront déjà acheté bien des glaces qu'il n'avait pas besoin pour vivre, par exemple. Mais ils lui ont donné tout cela par grâce, par amour. Les parents peuvent lui acheter une voiture, ce n'est pas interdit, évidemment. Mais ce n'est pas un dû, c'est une grâce. Et s'il ne le faisait pas, il serait autant juste et aimerait autant leur enfant que s'ils le font. Donc le premier problème avec cette notion de théologie de prospérité, hein, que Dieu doit me donner, enfin certains vont même dire j'ai fait un dépôt dans la banque de Dieu, j'ai le droit d'aller le rechercher, hein, ça va loin. Hein, eh bien c'est que la bénédiction n'est pas liée au mérite. Deuxième problème de voir le succès comme étant un dû en pratiquant ce que le psaume 128 enseigne, c'est que personne n'est pleinement capable de craindre l'Éternel et de marcher dans ses voies. Un seul péché dans notre vie indique que nous ne marchons pas dans ses voies. Ça signifierait que ces promesses ne sont pour personne. Ici, si on prend le texte vraiment au sérieux, ce serait pour personne. Si on va dans cette logique de cette fausse théologie. Qui peut prétendre obéir parfaitement au commandement de Dieu? Et dans cette façon de voir, donc cette fausse théologie, eh bien, fait penser que celui qui est béni matériellement est supérieur aux autres. Là, la preuve. Alors que c'est une notion totalement étrangère à la parole de Dieu. Que celui qui veut être grand, supérieur aux autres, soit l'esclave de tous. Ce deuxième problème soulevé par la théologie de la prospérité, que je vous invite à rejeter d'ailleurs, nous amène à comprendre que toute bénédiction que nous pouvons recevoir n'est nullement méritée, mais fait partie de la grâce que Dieu aime donner à ses enfants. Et si nous pouvons recevoir une bénédiction quelconque, c'est parce que Jésus-Christ est celui qui a véritablement craint l'Éternel et parfaitement marché dans les voies de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a véritablement craint l'Éternel et parfaitement marché dans ses voies. Il a fait plus encore. Il a pris sur lui la condamnation de tous ceux qui n'ont pas parfaitement craint l'Éternel et marché dans ses voies. Et quand ils se repentent et croient en Jésus-Christ, on peut recevoir et entrer dans ces bénédictions parce que Jésus-Christ est celui par lequel nous recevons les bénédictions. Et en préambule de cette prédication, nous avons lu deux extraits de l'enseignement de Jésus dans Luc et dans Matthieu, qui nous permettent de comprendre que Jésus n'est pas venu, en fait, nous donner des richesses matérielles. Dans Luc 12, 13 à 21, eh bien, il nous a indiqué qu'il ne sert à rien d'accumuler des richesses pour nous-mêmes. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Servez à quoi ces richesses? Et Matthieu 6, 19 à 20 nous a permis de mieux comprendre ce que signifie être riche pour Dieu. N'amassons pas des trésors sur la terre, mais dans le ciel. Et comment est-ce qu'on peut amasser des trésors dans le ciel? Par exemple, en vivant le fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Celui qui vit le fruit de l'esprit selon Galates 5, 22, il est en train d'amasser des trésors dans le ciel. Jésus a parfaitement accompli la volonté de Dieu, et pourtant, il n'était pas riche matériellement. Et l'apôtre Paul, à sa suite, ne l'était pas non plus. Jésus ne s'est jamais marié sur cette terre, et il n'a pas eu d'enfant. C'est dit pourtant que celui qui craint l'Éternel marche dans ses voies, il jouit de son travail, sa femme est féconde, il a des fils, enfin, Jésus ne s'est jamais marié sur cette terre, et il n'a pas eu d'enfant. Mais la femme, qui est comme une vigne féconde dans l'intérieur de sa maison, c'est l'Église pour Jésus-Christ. Et les fils, comme des plants d'olivier autour de la table, sont les membres de cette Église. Et Paul, l'apôtre Paul, se réjouissait premièrement de cette fiancée du Christ. Et il s'est donné sans compter pour elle, et la voir grandir fut sa bénédiction. Pour l'apôtre Paul, voir grandir l'Église était sa bénédiction. Alors, ce que je viens de dire, juste maintenant, ne signifie pas que l'Éternel ne bénit pas encore aujourd'hui par des épouses fécondes et fidèles à leur maison, ainsi que des enfants qui portent des fruits, qui sont à leur tour des bénédictions pour la table familiale. Évidemment, ces bénédictions font aussi encore partie du bonheur que Dieu donne à certains. C'est vrai. C'est une grâce. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la venue de Christ, la bénédiction ne dépend plus d'un descendant qui devrait venir comme dans l'Ancien Testament. C'est plus une obligation d'avoir des enfants pour qu'un descendant de Christ puisse venir. Parce qu'il fallait avoir des enfants pour arriver au descendant promis, celui par qui toute la terre est bénie éternellement. Nous pouvons donc nous réjouir des mariages aujourd'hui, c'est vrai, qui sont des illustrations de l'alliance de Christ avec son Église et qui donnent à l'époux et à l'épouse un partenaire pour vivre sous la mission de Dieu qui est de le glorifier ensemble. Nous pouvons nous réjouir des enfants qui sont un don de Dieu et qui sont placés dans la famille pour qu'ils soient formés afin de devenir des hommes, des femmes de Dieu adaptés, préparés à toute œuvre bonne qui glorifie Dieu. C'est pour ça que Dieu donne les enfants. Ce n'est pas juste pour son petit bonheur personnel, qui va durer d'ailleurs juste un certain nombre d'années. Je vous ai dit, le bonheur que Dieu nous donne, il est durable, il est éternel. Et réjouissons-nous aussi des célibataires et des couples sans enfants qui, par Jésus-Christ, se réjouissent également dans la famille spirituelle qu'est l'Église. J'aimerais juste souligner quelques caractéristiques de la bénédiction tirées du verset 3. Verset 3 où il est dit « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. » La vigne et l'olivier sont des symboles forts en Palestine. Car la vigne produit le vin, l'olivier, l'huile d'olive, qui tous deux étaient utilisés pour les sacrifices au temple. Ce sont des produits précieux, ce qui illustre en fait la valeur inestimable de la femme et des enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué le lieu de la bénédiction qu'apportent la femme et les fils. Verset 3. Quel est le lieu, l'endroit? Bien, pour la femme, il s'agit de l'intérieur de la maison. Hein, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Une femme est une bénédiction pour son foyer lorsqu'elle est féconde dans ce foyer et qu'il est l'objet de ses soins et de sa plus grande attention. Il n'est pas question de trouver son épanouissement ailleurs premièrement, comme malheureusement on l'enseigne beaucoup actuellement, mais dans le cadre familial, comme Dieu le dit par l'apôtre Paul dans Tite 2, les versets 4 et 5. On va aller réétudier ce texte. Et la femme a un merveilleux modèle dans Proverbe 31 qui indique qu'être féconde à l'intérieur de sa maison, ce n'est pas s'enfermer. Pas ça l'idée. Mais c'est de mettre la priorité sur son foyer. Relisez Proverbe 31. Et pour les fils, quel est le lieu de bénédiction des fils qui sont comme des plants d'olivier? Eh bien, le lieu de bénédiction des fils, c'est autour de la table. Autour de la table. Ça signifie que les enfants sont une bénédiction et que cette bénédiction va donner du fruit dans la maison où Dieu les a placés. Les enfants vont aider à tout le travail pour le maintien et le développement du foyer. Ça fait partie de ce qu'ils sont appelés à vivre. Par exemple, aider au ménage, à la cuisine, à la buanderie, au jardin. Et lorsqu'ils gagnent quelque chose, ils en donnent une partie pour leur entretien. Et ainsi, il est comme un plant d'olivier autour de la table, donnant de son huile pour sa famille. Et plus tard, étant parti du foyer familial, il continuera à être un encouragement pour les autres membres de sa famille. L'homme heureux qui craint l'Éternel et marche dans ses voies travaille de ses mains. Ça, c'est écrit au verset 2. Il travaille de ses mains. Il n'est pas inactif en attendant que l'Éternel bénisse sa maison. Non, il est en fait pleinement et totalement actif dans cette bénédiction. J'aimerais encore regarder avec vous les versets 5 et 6 qui nous indiquent la durée de la bénédiction. Les versets 5 et 6 nous indiquent aussi la durée de cette période. La bénédiction de l'Éternel, en fait, n'est pas passagère. Est-ce que vous avez vu dans les versets 5 et 6 quelle est la durée de cette bénédiction? Tous les jours de la vie. C'est bon ça. Tous les jours de la vie. J'aime cette belle promesse qui rejoint celle de Christ hein, quand il a laissé ses disciples. Il a dit « Je serai avec vous tous les jours ». Il n'est pas dit « Je serai avec vous pendant 5 ans ou 10 ans ou 50 ans ». Non, il a dit « Tous les jours de la vie ». Sa présence et sa bénédiction sont à la mesure de notre vie. Parfaitement dimensionnée et merveilleusement renouvelée. Hein, comme il est écrit, on l'a appris durant cette semaine, on l'a médité, hein, car la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, tous les jours de ta vie, chaque matin. Grande est ta fidélité. Et cette bénédiction vient directement du lieu de résidence de l'Éternel. Hein? L'Éternel te bénira de Sion, est-il dit dans ce texte. Du temple céleste où notre ancre est solidement attachée pour nous mener jusqu'à ce port béni, selon Hébreux 6, 19. Juste pour comprendre l'image de l'ancre, il faut comprendre qu'il y avait cette habitude que les grands bateaux qui arrivaient vers un port, avant d'arriver dans le port, un petit bateau allait chercher l'ancre vers ce grand bateau, l'attachait au port, et ensuite le grand bateau pouvait entrer dans ce port sans aucune crainte d'être ballotté, de repartir en pleine mer. Il était attaché au port. Eh bien, nous avons aussi une ancre solide. Relisez Hébreux 6, verset 19, c'est exactement ça. Nous avons une ancre qui est au temple de Dieu, hein, qui est dans le temple de Dieu, où nous arriverons un jour. Nous sommes des pèlerins, hein? Nous sommes des montées, des pèlerins, qui vont jusqu'à la Jérusalem céleste. C'est de Sion que l'Éternel bénit, c'est de sa résidence que viennent les bénédictions, là est notre ancre solidement et fermement attachée. Eh bien, puisons-nous dans les bénédictions de Dieu en exerçant le travail qu'il nous donne à faire? Est-ce qu'on dit, oh, j'aimerais bien que Dieu me bénisse, puis on fait rien? Pas comme ça que le psaume nous enseigne. Hein? Tu jouis alors du travail de tes mains, tu agis, tu travailles, c'est ainsi que nous entrons dans ces bénédictions. Réjouissons-nous de ce qui nous rend heureux dans notre travail, dans notre famille, lorsque nous vivons dans la crainte de l'Éternel et que nous marchons dans ses voies. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ne soyons pas sans espoir. Il y a un chemin, celui de la repentance, du retour à la parole de Dieu, afin de craindre l'Éternel et de marcher dans ses voies, afin de déclencher le bonheur. En conclusion, voici deux questions que nous pourrions nous poser. Premièrement, comment peut-on poursuivre la bénédiction selon le Nouveau Testament? Hein, on est dans les psaumes, vous dites ça c'est de l'Ancien Testament. Eh bien, pour répondre à cette question, nous lirons simplement un texte qui se trouve dans 1 Pierre. 1 Pierre 3, les versets 9 à 12. Vous pouvez regarder avec moi dans vos Bibles, 1 Pierre 3, qui nous dit ceci. « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez. » Écoutez bien ce qui est écrit ici. « Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Puis maintenant, il nous donne quelques éléments. « Si, en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a des yeux sur les justes et des oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. » C'est une autre façon de dire que nous sommes appelés à craindre l'Éternel et marcher dans ses voies. Et ainsi, il nous écoutera. Pardon. La deuxième question que je voulais vous proposer comme conclusion, est-ce que ceux qui craignent l'Éternel et qui marchent dans ses voies reçoivent toujours ses bénédictions? C'est une question qui peut nous rester à la fin de ce psaume. Est-ce que vraiment tous ceux qui vivent selon Dieu reçoivent ses bénédictions? Eh bien, ayons maintenant le Nouveau Testament, nous pouvons lire ce passage à la lumière du Christ et nous pouvons répondre positivement à cette question en comprenant que Jésus est celui qui a parfaitement craint l'Éternel et marché dans ses voies. Oui, en Jésus-Christ, Dieu est fidèle. Jésus a une épouse. Cette épouse, la Jérusalem d'en haut, qui est l'Église, est la mère de tous les croyants. Et quand nous sommes unis à Jésus par la foi, nous recevons gratuitement ses bénédictions. Que nous soyons mariés ou célibataires, que nous ayons des enfants ou non, nous avons tous le bonheur de faire partie de la grande famille de Dieu. Que nous soyons mariés ou célibataires, que nous ayons des enfants ou non, nous avons tous le bonheur de faire partie de la grande famille de Dieu. Nous sommes heureux d'appartenir à son Église, son épouse féconde dans sa maison, ses enfants qui font sa joie autour de sa table, que l'on peut aussi dire qui est la table de la Sainte Cène, où en fait ses enfants se retrouvent pour manger ensemble et se rappeler l'œuvre de Christ qui a tout accompli pour que nous puissions entrer dans ce bonheur. Donc réjouissons-nous et remercions le Seigneur de nous avoir donné un si grand cadeau. Nous allons prier. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. C'est ta parole, Seigneur. C'est toi qui nous la donnes. Et ce que tu dis, tu le fais. Seigneur, lorsque nous regardons à nos vies, nous nous disons, mais comment est-ce que j'arriverai un jour à vraiment te craindre et marcher dans tes voies? Seigneur, merci parce que tu nous donnes une réponse à cette question. Cette réponse, c'est Jésus-Christ qui est venu parfaitement accomplir cela afin que nous n'ayons plus à nous juger, à être déprimés, à nous dire, je n'y arriverai jamais. Mais être dans la reconnaissance parce qu'il l'a accompli et qu'en lui, nous pouvons entrer dans ses bénédictions et que par sa force, nous pouvons vivre petit à petit et toujours plus cette crainte de ton nom et de cheminer dans tes voies. Seigneur, merci parce que tu as donné ces précieuses bénédictions terrestres aussi, qui sont des conjoints pour ceux qui sont mariés. C'est une illustration de ta bonté et de ta grâce. Seigneur, les enfants sont également une bénédiction de toi. Nous te remercions et te louons parce que c'est aussi une illustration de ta grâce. Nous sommes conscients que si tu donnes à certains et non à d'autres, ce n'est pas parce que tu aimes plus ou moins, c'est parce que tu as un chemin pour chacun. Tu bénis à ta manière. Ce n'est pas un dû. Tu n'es pas un Dieu à qui nous pouvons donner des ordres. Mais tu es un Dieu qui est rempli d'amour et qui donne tellement. Nous te louons et t'adorons et te prions de nous aider à saisir aussi cette joie de voir ton Église grandir, ton Église fructifier. C'est notre désir, que ce soit notre désir le plus profond et que nous puissions nous en réjouir. De voir des fils, des filles qui soient autour de ta table, sauvés pour l'éternité. Seigneur, nous implorons ta grâce. Et quand on a le bonheur de pouvoir être tes enfants, de pouvoir être sauvés, héritiers de la vie éternelle, nous puissions encore voir tes bénédictions sur cette terre, dans l'Église et dans nos familles. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.